l'art pour tous. Cette donation est faite pour faire profiter tout le monde de ce travail de collectionneur que j'ai fait pendant 25 années et ma femme m'y a beaucoup aidé.
Dessine-moi une collection. Le podcast du Musée d'art moderne de Troyes, collection nationale Pierre et Denise Lévy.
C'est des objets qui aujourd'hui ont plusieurs lectures, qui étaient utilisés dans des rites très particuliers, qui avaient un usage propre.
On voit qu'il y a effectivement une histoire des arts également en Afrique.
Ces peuples, dont les chefs-d'œuvre n'ont rien à envier aux plus belles productions de l'art occidental.
Épisode 7, voyage à travers les collections d'Afrique et d'Océanie.
Nous avons dans la collection 74 pièces qui proviennent d'Afrique et 7 d'Océanie.
Juliette Fèvre-Préda, conservatrice du musée.
En ce début de XXe siècle, il y a vraiment l'idée chez les artistes de s'affranchir de la tradition occidentale, un peu à l'image de Gauguin qui partait à Tahiti pour découvrir autre chose. Et il y a aussi eu la mode des estampes japonaises. Peu à peu, tout ça s'estompe et les artistes se tournent vers les arts d'Afrique et d'Océanie.
À l'époque, acquérir de l'art extra-occidental, on disait d'ailleurs art primitif, c'est donc une mode chez les artistes et les collectionneurs. Une mode à laquelle Pierre Lévy va s'adonner avec passion.
C'est probablement Derain qui l'a amené à collectionner ses œuvres, puisque Derain est un des premiers à avoir collectionné des arts d'Afrique et d'Océanie. Il joue un rôle majeur dans la constitution de la collection de manière générale. Donc on peut supposer que c'est lui qui a probablement amené Pierre Lévy à collectionner ce type d'œuvres. Derain découvre ses œuvres lors de son voyage à Londres en 1906 au British Museum. C'est une sorte de révélation. Et l'année d'après, c'est lui qui emmène Picasso au Trocadéro. Cette découverte des arts africains, c'est d'abord Derain, et puis bien sûr Vlaminck, Picasso, Matisse, Marie Laurencin. Tous ces artistes ont collectionné toutes ces œuvres.
Les artistes ont été ceux qui ont fait passer justement ces objets de l'ethnographie à l'art.
Hélène Joubert est conservatrice générale au musée du Quai Branly à Paris, qui concentre une immense collection d'arts extra-occidentaux.
Les artistes ont été ceux qui les ont reconnus en tant que tels, d'abord pour l'intérêt de leur forme plastique, mais qui se sont aussi posé des questions et qui cherchaient à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les objets, hein, quels sont les gens, notamment, qui sont derrière.
C'est des objets qui aujourd'hui ont plusieurs vies, plusieurs lectures, puisque c'est des objets qui étaient utilisés dans des rites très particuliers, qui avaient un usage propre. On peut donner l'exemple des poupées Akwaba du Ghana. On a deux très belles poupées de culture Ashanti, qui sont en fait des petits disques de bois sur un cylindre avec une petite barre qui crée les bras. Et en fait, ces très belles poupées, qui sont très esthétiques, étaient utilisées notamment pour favoriser la grossesse, pour avoir de beaux enfants. Donc voilà, elles avaient vraiment un usage précis. De même, on a des très beaux cimiers. Ils étaient utilisés pour des cérémonies, pour favoriser les récoltes.
C'est finalement le regard des artistes et aussi des collectionneurs qui a façonné l'attention donnée à certaines formes plutôt qu'à d'autres, à certains styles, à certains types d'objets. Les objets avaient cette sorte de capacité à se trouver à certains endroits, dans les ports notamment, chez les brocanteurs, chez les tout premiers antiquaires, dans ce qu'on appelait aussi les cabinets de curiosité. Donc il y avait des lieux où ces objets finalement finissaient, entre guillemets, leur trajectoire avant même de se diriger vers un musée.
Sa collection, Pierre Lévy la constitue surtout à partir de grandes ventes publiques. La vente Félix Fénéon en 1947, Paul Guillaume en 65, Roger Bédia en 66. Des collections ramenées des comptoirs côtiers, des échanges diplomatiques ou des voyages d'exploration au cœur de l'Afrique.
À partir du moment où les objets sont arrivés en Occident, on a cherché à trouver des réponses par l'étude, la comparaison avec d'autres objets similaires, bien sûr, l'utilisation d'observations, d'analyses ou d'enquêtes qu'on appelle de terrain, c'est-à-dire des chercheurs qui sont allés sur le terrain en Afrique. Donc on a eu tout au long du XXe siècle, finalement, un enrichissement de l'observation, de la connaissance. Et les arts africains, les sociétés africaines ont été l'objet aussi du développement d'une science nouvelle, hein, l'ethnographie, avec la naissance aussi des musées d'ethnographie à la fin du XIXe siècle, l'anthropologie, bien sûr, qui s'intéresse aux sociétés, aux hommes, à la place de la culture matérielle, à ses modes de production.
C'est des œuvres qui sont assez compliquées à documenter. C'est déjà très difficile de les dater. Chez nous, beaucoup ne sont même pas datées, donc il faut vraiment un spécialiste pour arriver à les dater. Et il y a tout un travail à faire, bien sûr, sur leur historique. Donc, on connaît les cultures d'origine, on connaît pour la plupart d'entre elles les ventes les plus récentes du XXe siècle, les collectionneurs auxquels elles ont pu appartenir. Mais il y a tout un travail d'entre-deux qui est à faire et qu'on souhaite vraiment mener accompagné de spécialistes.
Des spécialistes comme Hélène Joubert, qui est responsable au Quai Branly de l'unité patrimoniale des collections d'Afrique. Elle va faire appel tantôt à la science, tantôt à l'analyse stylistique des œuvres.
On peut dater scientifiquement les objets d'Afrique qui sont en bois ou en terre cuite en utilisant différentes méthodes, le carbone 14, la thermoluminescence. Donc on arrive à avoir effectivement des datations aujourd'hui, mais ces méthodes ont été développées au XXe siècle, qui nous permettent de voir que certains objets sont très anciens. Pour le bois, on peut remonter jusqu'au XIe siècle après Jésus-Christ. Pour la terre cuite, on peut remonter encore plus loin, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Disons qu'aujourd'hui, on a effectivement des moyens de battre en brèche cette idée d'un art immuable qui n'évoluerait pas dans le temps. On voit effectivement qu'il y a des traditions, que ces traditions évoluent, qu'on peut les placer dans des moments du temps. On voit qu'il y a une histoire des arts également en Afrique.
Et il y avait un homme qui le savait peut-être plus que tout autre, même si cette érudition a été, durant la plus grande partie de sa vie, un secret bien gardé.
Ces peuples, dit Romier, sont riches d'intelligence, de culture, d'histoire. Ils sont dépositaires de sagesses ancestrales, d'un imaginaire raffiné, peuplé de mythes merveilleux, de hautes expressions artistiques, dont les chefs-d'œuvre n'ont rien à envier aux plus belles productions de l'art occidental. Cette diversité est un trésor que nous devons plus que jamais préserver.
Le 20 juin 2006, le président Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly à Paris, entièrement consacré aux arts extra-occidentaux. Ce musée qu'il avait porté et qui prendra 10 ans plus tard le nom de Quai Branly Jacques Chirac. Le 19 mai 2011, l'ancien président se rend à Troyes pour une visite du musée d'art moderne. Une visite en toute simplicité, juste pour son plaisir.
Une visite qu'il avait souhaitée privée, sans lumière.
François Barouin, maire de Troyes, est président de Troyes Champagne Métropole.
Il connaissait évidemment la famille Lévy, il connaissait l'histoire du musée, je lui en avais par ailleurs beaucoup parlé. Il était venu en passionné, de manière discrète. C'était un jeudi, un soir, il était assez détendu, un peu fatigué bien sûr, parce que la maladie avait commencé à l'accompagner. Il était malgré tout présent et disponible à l'écoute. Et on avait fait une heure et quart de déambulation au sein du musée et on lui avait présenté toutes ses œuvres.
Ce sont des œuvres du Nigeria et du Cameroun qui avaient particulièrement attiré son attention.
Il y avait une statue de la fécondité. Il s'est arrêté aussi sur les petits masques qui sont les passeports de certaines ethnies, notamment du Cameroun, du Sénégal, du Congo et d'une partie de l'Afrique centrale. Et il avait une connaissance infinie. Et il expliquait aussi le partage de ses connaissances personnelles.
Il s'agit pour la France de rendre l'hommage qui leur est dû à des peuples brutalisés, exterminés par des conquérants avides et brutaux, peuples humiliés et méprisés, auxquels on allait jusqu'à dénier qu'ils eussent une histoire. Peuples aujourd'hui encore, souvent marginalisés, fragilisés, menacés par l'avancée inexorable de la modernité.
Je savais sa passion pour l'Afrique, puisqu'il l'avait en commun avec mon père, dont il était très proche. Sa passion également sud-américaine, parce que je me souviens, et à l'époque j'étais très jeune, il était maire de Paris, on préparait le bicentenaire, et en perspective, il y avait également la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qu'il tenait pour l'un des plus grands sanguinaires de tous les temps. Il avait refusé que la mairie de Paris participe au financement, parce qu'il considérait Christophe Colomb était à l'origine de pogroms et de génocides sur une partie des Indiens autochtones de l'Amérique du Sud, et pour lequel jamais l'humanité n'avait reconnu à la juste hauteur historique cet acte-là.
Venez découvrir dans leur tout nouvel écrin les collections d'Afrique et d'Océanie du Musée d'Art Moderne de Troyes. Un ensemble exceptionnel d'œuvres emblématiques présentées par collectionneurs.
On a tout un espace qui est dédié à l'ancienne collection Félix Fénéon, qui a vraiment œuvré pour ce décloisonnement des arts. Tout un espace dédié à Paul Guillaume, le collectionneur du musée de l'Orangerie. Tout un espace dédié également à Roger Bédia, un peu moins connu, mais qui était aussi un grand marchand d'art primitif. Et ensuite, notre scénographe a créé toute une rotonde qui permet autour d'un grand escalier d'exposer les grandes figures qu'on peut avoir, que ce soit des cimiers, des très grandes sculptures, des piliers de cases, des sièges de chefs. Enfin, on a vraiment toute une déambulation autour des grandes figures.
Ces arts extra-occidentaux ont eu un impact majeur sur l'art moderne, notamment sur le cubisme. Ils ont beaucoup influencé certains artistes.
Et c'est ce qu'on a essayé de présenter, nous, dans le musée, en mettant côte à côte une très belle œuvre de Modigliani, donc un portrait de Jeanne Buterne, sa femme qui est également peintre, et à côté, un masque africain dans lequel on retrouve une similitude dans le nez allongé, dans les yeux en amande. On a vraiment des points communs. Et puis, ces deux œuvres ont appartenu à Félix Fénéon. Donc, on a ces trois lectures. Notre Modigliani vient un peu clore l'espace sur les peintures du Paris début de siècle, montrer ce lien avec les arts extra-occidentaux, et puis créer cet ensemble d'œuvres et lieux appartenus à Félix Fénéon, toujours dans cet esprit du musée de collectionneurs.
Dans le prochain épisode de Dessine-moi une collection, nous partirons à la rencontre d'un artiste majeur du musée d'art moderne de Troyes. Majeur et touche-à-tout, André Derain.
Retrouvez l'agenda des expositions, conférences, ateliers du Musée d'art moderne de Troyes, Collection nationale Pierre et Denise Lévy, sur les réseaux sociaux du musée et sur musée au pluriel -3.com.
Dans 250 ans, on regardera encore un beau sera. Et s'il est resté en France, mais je m'honore d'avoir été utile à mon pays, si ce n'est que pour cela.